En fait, notre affarin, là, c'est Mardi Gras aujourd'hui. Quel vénard! Il n'a pas besoin d'acheter un masque. Vive la France! Allez, bonsoir.
Salut Daniel, c'est Thierry de la région Rhône-Alpes. On est à Gap, en train de descendre le service public de proximité. On est 150 agents EDF. Voilà, on tenait à dire qu'il faut absolument maintenir un service de proximité. Ils veulent une fois plus délocaliser les emplois et faire en sorte que les emplois soient là où il y a le pognon. Et on n'est pas d'accord, on tenait à vous le dire. Allez, ciao Daniel et bon courage. Hein, salut.
Je vous appelle parce que je viens encore d'entendre le moral des ménages. Et ça, ça m'énerve, le moral des Français, le moral des ménages. Tout ça parce qu'on consomme pas. Mais le moral, moi j'ai le moral, mais c'est parce qu'on consomme pas. On n'est pas obligé de consommer, là il fait beau, c'est encore, c'est un super soleil, je vais aller me balader, je vais pas aller dans un magasin, je vais pas dépenser d'argent. Mais je suis heureuse. Ça veut dire quoi le moral des ménages? Allez, salut Mermet.
Bonjour. Émission sur Stalingrad, bravo pour l'idée. Comment peut-on faire une émission où on ne parle qu'avec suspicion, dubitation ou morosité de l'enthousiasme des soviétiques et faire dire à la fin à une femme vétéran qu'à 16 ans, elle s'est enrôlée volontairement? Je suis pas bien le mouvement. Je pense qu'il y avait un petit peu d'envie de défendre le communisme et le régime, ou alors, comprends plus. Merci. En tout cas, c'était une très belle émission.
Merci de cette observation, en effet. Ben, toute la question est là, justement. Quel était exactement le sentiment de ceux qui défendirent Stalingrad, qu'ils fussent civils ou soldats, mais il faudrait être très très malin pour le savoir, tout prête à croire qu'ils ne le savaient pas toujours clairement eux-mêmes, entre la terreur qui les poussait, la terreur qui était devant eux, leur indéniable sentiment patriotique, leur héroïsme et leur barbarie, car il faut aussi en parler. Très difficile aujourd'hui, bien sûr, que et c'est un petit peu de ce qu'il y a derrière le message de cet auditeur sur le répondeur. C'est bien évidemment, il se battait pour la cause. C'est pas si clair que ça, et je crois que nous n'aurons pas de solution ni de réponse très claire au sentiment qui animait ces Russes, ces Soviétiques lors de cette bataille. On y retourne aujourd'hui, il y a 60 ans, c'était la victoire de Stalingrad, le 2 février, je dis bien la victoire de cette bataille qui a changé la face du monde. Imaginons l'inverse si les Soviétiques n'avaient pas gagné. Et vous le savez, demain c'est l'anniversaire de la mort de Staline. Pour faire suite à ce que dit cet auditeur, on peut rappeler ce qui s'est dit lors de ces funérailles extraordinaires où entre 500 et 1500 personnes furent écrasées dans la foule à Moscou. Quelqu'un disait « Je donne ma vie éclatante comme un coquelicot, nous ne sommes que le fumier des générations futures ». On a pu entendre des choses comme ça devant la dépouille du créateur de notre gloire immortelle, le génial architecte de l'ascension du prolétariat, etc. Ces excès sont connus, mais dans le secret de l'inconscient collectif des Soviétiques, ça c'est beaucoup plus difficile de faire la part des choses. Aujourd'hui, donc, on retourne à Stalingrad dans la mémoire des vétérans et on va rencontrer également Galina, Madame Galina, on va l'appeler comme ça, Madame, qui a une histoire particulièrement extraordinaire à nous raconter. Elle avait 7 ans quand cette histoire s'est produite. Mais auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 05 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Je voulais vous signaler la sortie d'un livre de Philippe Simonneau, Le Monde et le Pouvoir, un livre qui est paru en 1977, un livre qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, mais ou peut-être sans doute oublié aujourd'hui. Je voudrais simplement vous lire un peu, tout petit extrait de la conclusion de ce livre, donc édité en janvier 1977. Cependant, le pouvoir acquis par le monde bien sûr le journal, entraîne que le monde est acquis par le pouvoir, happé dans le champ de la lutte pour le pouvoir, à la fois acteur et enjeu, ce qui signifie immédiatement qu'il est des vérités que le monde ne peut pas dire. De plus, pouvoir, c'est aussi abuser du pouvoir, et le monde n'échappe pas à cette règle. Voilà, c'était une citation d'un journal de Philippe Simonneau, Le Monde et le Pouvoir, paru en 1977. Aujourd'hui, oublié ce livre. Espérons que celui de Péan ne soit pas oublié dans 20 ans. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Michel à Narbonne. Je voulais dire à Daniel Mermet que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les deux émissions consacrées au livre de Péan et Cohen sur la face cachée du monde. Et que j'ai l'impression qu'on est en train de se gargariser de formules creuses. J'ai entendu Mermet utiliser les termes d'immunité, d'impunité des médias. Ça n'existe que dans vos imaginations. Et je voulais aussi vous inciter à la réflexion par rapport à la distance qu'il peut y avoir pour la crédibilité des médias dans le grand public, crédibilité de la presse de l'information qui est en régression dans ce pays. Et de ce point de vue, le bouquin de Péan et de Cohen va être des plus salutaires. Il va, j'espère, inciter le monde à revenir à sa vocation première, l'information des lecteurs, la formation et l'information des lecteurs, plutôt que de risquer des aventures à des coups foireux, à essayer d'ériger une justice médiatique foireuse ou à essayer d'ériger une justice de la presse pour abattre des hommes politiques. Voilà la réflexion, et bravo Mermet, et continuez à nous informer de cette manière-là. À bientôt, au revoir.
Je suis surpris par toute cette affaire médiatique sur le monde, parce que je lisais un petit journal, là, absolument, pratiquement inconnu, PLPL, pour lire au Palu de Marseille, moi qui suis dans les Pyrénées-Orientales, et ça fait longtemps qu'il me disait tout ça, d'une façon assez cavalière. Je le croyais pas trop, comme quoi je me trompais. J'aurais dû faire confiance à ce petit média inconnu. Voilà, au revoir.
Bon, petit message un peu désespéré. J'appelle Doreen, je suis plutôt de gauche, je suis plutôt journaliste. Et j'ai plutôt super les boules. Voilà, un petit chuchotement de désespoir. Ciao.
Ubi solitudinem facunt, pacem appellant. Où ils font un désert, ils disent qu'ils ont donné la paix. Cette phrase, dite par Tacite, dénonçait les excès des Romains, et ces mots s'appliquent aux conquérants qui tentent de justifier leur ravage par l'apport de la civilisation. Avec la distribution des futures médailles et des bruits de bottes là qui se rapprochent, je trouvais que c'était de circonstance.
Mon message, c'est pour vous, les auditeurs. Vous, les fameux auditeurs de là-bas, si j'y suis. Et en fait, vos messages, moi, je trouve ça excellentissime. En fait, voilà, quoi, je voulais juste faire un petit salut aux auditeurs, à ceux qui écoutent Daniel Mermet, ceux qui écoutent là-bas, si j'y suis, ceux qui veulent, en fait, s'ouvrir un petit peu, quoi, voilà. Ça sert strictement à rien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien.
Там, где я нахожусь. Là-bas, si je suis.
Au loin, dans la fumée, apparaît Stalingrad.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Aude de Merlin. Là-bas, si j'y suis, Stalingrad.
Flight number 2, arriving from New York.
Pour vous, la bataille de Stalingrad, c'est pas une victoire.
Ну как? Как мы все говорим, это праздник со слезами на глазах.
Comme on dit tous, c'est une fête avec des larmes plein les yeux.
Мы спасали за
au combat. On a sauvé les gens pour la patrie.
За Сталина.
Pour Staline.
За Родину.
Pour la patrie. Yeah. Du 19 novembre, décembre, janvier, février, ça fait 3 mois et demi. Trois mois et demi d'horreur. Trois mois et demi de combats horribles.
Столько лет прошло, а я помню эти команды.
И je me souviens quand même de ces ordres.
Achtung, Augenrechts, Augengerade aus, links um, on a dritter Marsch. Вы знаете, не зная немецкий язык, я вот 60 лет.
L'allemand, donc 60 ans, je me suis souvenu de ça. Achtung, Augenrechts.
Стоит на костях и крови.
Cette ville se trouve sur des os et du sang.
Это город как бы предназначен больше не для жизни в нем.
C'est pas une ville prédestinée à la vie.
А для истории, для памяти.
C'est pas une ville qui est faite pour y vivre, c'est une ville pour l'histoire et pour la mémoire.
Это в большей степени город мертвых героев.
C'est plutôt la ville des héros morts.
Pas une ville d'Europe n'est plus ruinée que Stalingrad. Mais Stalingrad n'est pas seulement la ville la plus ruinée du monde. Stalingrad est un signe. Stalingrad, avec ses ruines, ce fut la victoire de l'espérance et la certitude de la victoire. Cette ville de murs sans visage, marquée seulement des inscriptions des enfants perdus cherchant leur mère, cette ville où les soldats russes, le jour de la capitulation allemande, trouvaient dans les bagages de l'ennemi le film de son succès, cette ville brûlait du plus tragique des incendies. L'armée de von Paulus, forte de 330 000 hommes, cernée à la pointe extrême de son avance vers l'Est, était contrainte de capituler après avoir perdu un soldat sur trois. Et aussitôt, à peine ramassés les souvenirs brûlants de la bataille, les habitants de Stalingrad revenaient. Petits groupes haillonneux et misérables qui s'étaient dispersés dans la campagne, qui s'étaient cachés, qui avaient échappé à la mort. Ils revenaient dans cette grande ruine silencieuse. Ils cherchaient, ils retrouvaient parfois les richesses misérables de leur foyer détruit. Ils réinstallaient leur vie dans cette guerre meurtrie. On envie quitter pour abri la carcasse des Junkers abattus. Et Stalingrad recommença à vivre. Stalingrad était-elle trop blessée pour revivre? Peut-être une autre ville l'aurait-on laissée comme un témoignage, mais d'elle était venu le message de l'espoir, d'elle aussi devait venir maintenant le message du courage, car toute la population a voulu être l'ouvrier de sa renaissance. Stalingrad voulait vivre et elle vit. Et dans ses ruines, ce qu'on entend maintenant, c'est le chant immense d'une jeunesse.
самая страшная минута,
la когда летит самолет, c'est quand les avions volaient et jetaient des bombes comme on sème des graines. Ça, c'est le moment le pire.
C'est
quand tu te caches, tu te caches dans les tranchées, tu essayes de... Quand on voit ça, on voit les avions, un avion qui vole, et on voit comme ces graines, ce sont des bombes qui tombent. Et mon Dieu, mon Dieu, on se demande, est-ce que je vais rester en vie ou est-ce que je vais être emporté? C'est le moment le plus terrible.
Les petites graines, les bombes qui tombaient comme des petites graines, qu'est-ce que ces graines ont donné comme comme arbre, comme plante dans la mémoire russe? Faudrait-il faire table rase de ceux qui voulaient faire du passé table rase? Eh bien, les vétérans, dont Alexandra, cette infirmière que nous retrouvons aujourd'hui, se sont réunis pour le 60e anniversaire de la bataille de Stalingrad, le 2 février dernier. Terrible bataille, faut-il le dire, cette épopée terrifiante, 2 millions, 3 millions de victimes. On exagère toujours, on ne sait pas très bien, en fait, on ne sait pas très bien si on parle de civils, si on parle de soldats, si on mélange tout. Et quand c'est pas précis comme ça, c'est généralement encore un enjeu très vif de mémoire. En Union soviétique, ça l'a été longtemps, contrairement à ce que on pourrait croire. En Russie, aujourd'hui, c'est évidemment un motif très important de la réflexion et du retour à l'identité, du recouvrement d'identité et de ce peuple russe qui aujourd'hui est à la recherche de son passé. Il y a 12 ans, c'est ça, 12 ans, 1991, nous étions à Moscou et nous parlions avec des journalistes et des intellectuels russes et on leur posait la question, nous leur posions la question de savoir quel était leur futur, leur avenir dans une dizaine d'années, on leur posait la question. Et un des éditorialiste de ce journal, Les Nouvelles de Moscou, disait, mais comment tu veux qu'on sache quel sera notre avenir? Parce qu'on ne sait pas quel sera notre passé. Quel sera notre passé? Et Moshe Levin, avec qui je parlais ce matin, ce grand historien de l'Union soviétique, des années soviétiques, disait qu'à force d'être toujours dans la propagande, eh bien, l'analyse sur soi-même disparaît, si bien que les soviétiques ne savaient pas qui ils étaient. Et symétriquement, dit Moshe Levin, le camp de la, qui prétendait être le camp de la liberté, c'est-à-dire le monde libre, c'est-à-dire le monde capitaliste, ne savait pas non plus lui-même qui il était, parce que lui aussi procédait en jeu de miroir de cette propagande, y compris vis-à-vis de lui-même. Cette intoxication par soi-même qui fait que la réalité n'affecte plus le dogme. La réalité n'affecte pas le dogme. Et aujourd'hui, eh bien, les uns et les autres, en tâtonnant, essayent de savoir ce qui s'est passé. Et on ne peut pas savoir exactement pour l'instant, non seulement parce que les archives qui se sont ouvertes après l'effondrement de l'Union soviétique sont loin d'être entièrement consultées et interrogées, parce qu'il faut savoir interroger des archives, et puis parce que les Russes eux-mêmes tâtonnent dans leur passé. Nous le savons bien, nous voyons ce qui se passe avec nos voisins algériens aujourd'hui. C'est long la mémoire, c'est long, c'est lent l'histoire. Reste que dans ces témoignages, dans les émotions que nous allons entendre et partager, comme avec Alexandra, passe un peu de tout ça, passe un peu du cœur et de l'âme des peuples. Est-ce que vous avez envie de partir, de fuir à un moment ou à un autre?
Откуда?
Убежать с фронта? С армии?
Quitter le front, quitter l'armée?
Вы что говорите?
Mais qu'est-ce que vous dites?
Вы что говорите?
Mais qu'est-ce que vous dites?
Чтобы я ушла с армии, с фронта во время войны?
Quitter le front pendant la guerre?
Чтобы я оставила солдата раненого?
Et laisser des soldats blessés, mais que dites-vous?
Я последнюю кровь отдам, чтобы спасти.
Je donnerai ma dernière goutte de sang pour sauver quelqu'un.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Jamais de ma vie.
Я умру.
Je préférerais mourir.
Я там умру никогда.
Je mourrai. Jamais.
Мы спасали за родину.
On a sauvé les gens pour la patrie. Pour Staline. Pour la patrie.
Я вот это. Больше всего я люблю вот это.
Cette médaille.
Это боевая медаль.
Que j'aime par-dessus toute cette médaille de guerre.
Почитайте.
Lisez-la.
Это день победы.
Lisez-la. C'est le jour de la victoire. Et la lisez.
За оборону Сталинграда.
Pour la défense de Stalingrad.
À partir de quel moment, Alexandra, vous avez compris que l'URSS était en train de gagner?
Это не только нужно было понять. Мы верили в это до конца своих минут.
C'est pas une question de compréhension, c'est une question de foi.
В то, что
on
мы
a cru
победим.
Jusqu'au это dernier moment qu'on allait vaincre.
По-другому не
on
должно было
pas,
быть.
Ça pouvait pas être autrement.
Потому что Сталин победит.
C'est sûr que Staline allait vaincre.
Это другого не должно было.
Aucune autre possibilité.
Ouais, ouais. Mais vous vous battiez pour Staline ou pour la Russie?
Oui, ça
ou pour l'URSS?
Дело не в партии.
Non, c'est pas le parti.
Я защищала родину.
Je suis partie au front, j'ai défendu la patrie. Seulement
только
pour la patrie.
За свою страну, за
seulement
свою...
pour mon pays, понимаете? Pour ma patrie.
Я представляла, пусть будущее наших детей и внуков pour... будет без войны.
Pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, pour un avenir sans
это,
guerre.
Это только нас вдохновляло, наш, вдохновляло наш энтузиазм.
C'est ça qui a complètement suscité notre enthousiasme.
Наша любовь к родине.
Notre amour pour la patrie.
Мы другого не представляли.
On ne pouvait pas imaginer une autre issue.
Et... Alexandra, quand vous dites Alexandra, Staline, vous voulez dire patrie. Quand vous dites patrie, vous dites Staline.
C'est la même chose, c'est un ensemble. C'est un seul et même ensemble. Comment peut-on penser autrement?
C'est un tout.
Du quartier général du Führer, 3 février 1943. Le commandement supérieur de la Wehrmacht annonce. La bataille de Stalingrad est terminée. Loyaux à leur serment de fidélité au drapeau, la 6e armée, sous la direction exemplaire du Feldmaréchal Paulus, a succombé à la supériorité de l'ennemi et à la situation défavorable. Le sacrifice de l'armée n'a pas été vain, ils sont morts pour que l'Allemagne vive.
Quand on a appris que c'était la victoire, c'était quelque chose de terrible.
C'était
une telle joie. Une telle joie qui est intransmissible. C'est une nouvelle vie. C'était comme une deuxième vie qui commençait, qui apparaissait. Tout le monde s'embrassait dans la rue, se rencontrait, s'embrassait, pleurait, se réjouissait, c'est intransmissible. N'importe quelle personne passant dans la rue, quand la guerre est terminée, les gens marchent,
s'embrassent,
se réjouissent, pleurent. Il y en a qui attendent les leurs, d'autres qui racontent que l'un d'entre eux est mort. J'ai apporté des bougies, j'ai apporté des cierges que j'aurais déposé au Mamaïev Kurgan.
Ah.
Là, elle vient de tout revivre du début à la fin. Elle a tout revécu.
Faut
arrêter, je veux plus. Je veux plus.
Vous, vous êtes beaucoup plus tranquille, hein?
Oui.
Я понимаю, что она переживает.
Je comprends qu'elle souffre autant en racontant tout ça.
Elle переживает очень.
Elle souffre, elle revoit tout ça.
Émotionnelle.
Elle est très émotive.
Vous-même, vous étiez à Stalingrad?
Oui, bien sûr. Du début à la fin de la bataille.
Quel a été le moment le plus dur pour vous?
Stalingrad?
À Stalingrad.
Stalingrad, все было... Все было тяжело.
Tout était difficile à Stalingrad.
Легких минут не было.
Il n'y a pas eu de minutes plus faciles ou de répit.
И полное напряжение.
C'était une tension permanente.
Все время.
Tout le temps.
Du 19
novembre.
Décembre.
Décembre, janvier, février.
Ça
fait 3 mois et demi. Trois mois et demi de combats horribles.
Pourquoi vous vous battiez ? Alexandra, Sacha, elle dit qu'elle se battait pour la patrie, pour Staline. Et vous ?
Pour la Staline.
Pour la patrie, pour
Staline.
J'adorais Staline. Et encore aujourd'hui. Je suis géorgien.
Comme Staline.
Oui, comme
Staline.
Oui, on est de la même terre.
Я специально приехал, чтобы долго Волгоград переименовать на Сталинград.
Je suis venu ici spécialement pour changer le nom de la ville, pour rebaptiser la ville en Сталинград.
C'est
ce que je vous disais précisément. Tout le monde a la même idée.
Тишина за Мамаевым курганом тишина. Вот уж вечер волгоградский настает, а старушка не уходит, сына ждет. Мирный берег, тихо плещется волна, разговаривает с матерью она. Мирный берег, тихо плещется волна, разговаривает с матерью она.
Avec les vétérans de la bataille de Stalingrad, les enfants de cette ville, il y a une association des enfants de Stalingrad aujourd'hui qui s'appelle Volgograd. Ils furent près d'un millier d'enfants sur les 10 000, quasiment 10 000 civils qui restèrent dans ce chaudron pendant toute la durée de la bataille. Et là, on va rencontrer une femme tout à fait étonnante, comme on rencontre peu dans sa vie. Elle s'appelle Galina Alexandrovna. Galina Alexandrovna est une belle personne d'une soixantaine d'années, un peu plus de 60 ans. Elle va dire très précisément son âge, parce que c'est son âge est lié à son histoire, qui est une histoire tout à fait singulière et qui s'illustre par 5 chiffres qu'on peut lire sur son bras en bleu, écrit en bleu. Et ces chiffres sont 6, 2, 0, 8, 4, 62 084. Galina Alexandrovna porte ce tatouage depuis qu'elle est enfant. Elle a été déportée à Auschwitz. Elle est russe. Elle est née dans l'actuelle Biélorussie. Et elle va nous raconter son histoire. Une histoire qui est liée avec, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, avec la Grande Guerre patriotique, comme disent toujours aujourd'hui les Russes, et qui renvoie à un épisode un peu moins connu de cette histoire, qui est l'histoire des partisans. Comment, après que les armées du Reich aient envahi l'URSS, des partisans se sont organisés, c'est-à-dire des habitants, c'est-à-dire des civils, qui se sont organisés en résistance, un petit peu comme chez nous. L'histoire officielle a dit ensuite que c'était évidemment le pouvoir central et l'armée rouge qui avait organisé ces partisans. C'est plus tout à fait la vérité, selon certains historiens et selon certaines mémoires. Ni Shagunazad, on nous a dit ça hier, ça veut dire pas un pas en arrière, c'était un ordre de Staline. Et puis il y avait aussi une autre phrase qui disait « Il n'y a pas de prisonniers, il n'y a que des traîtres ». Et il y a eu des prisonniers, il y a eu des centaines de milliers, il y a eu des millions de prisonniers soviétiques faits par les armées du Reich à des fins des prisonniers de guerre, environ 5 millions, et quantité de prisonniers civils prélevés dans la population afin de répondre aux nécessités de l'effort de guerre dans les usines allemandes, parfois pour l'armement, mais aussi pour faire fonctionner tout simplement l'industrie et l'économie allemande. Et puis il y eut des personnes comme Galina Alexandrovna qui a été déportée pour d'autres raisons. On rentre chez cette femme, qui est une grande femme, je l'ai dit, qui est retraitée maintenant et qui était dans l'enseignement et qui s'occupe aujourd'hui d'associations d'anciens prisonniers en Pologne. Galina, vous quel âge vous aviez au moment de la bataille de Stalingrad ici.
Во время Сталинградской я не была здесь. Я же была уже в Германии.
J'étais pas là pendant la bataille de Stalingrad, j'étais déjà en Allemagne.
А взяли меня, увезли из Витебска. Это белорусский город.
J'ai été prise à Vitebsk en Biélorussie.
Белоруссия. Vous êtes née où?
Я не помню, не знаю. Видимо, около Белоруссии там, то есть около Витебска где-то.
Je sais pas où je suis née, sûrement près de Vitebsk.
Я ведь дошкольницей осталась без семьи и попала.
Parce que moi j'étais orpheline. C'est et donc je suis tombée en camp de concentration avant d'avoir l'âge d'aller à l'école.
Потому что семья оказалась в партизанской зоне.
Ma famille se trouvait dans la zone des partisans.
À Vitebsk. Да. C'est le pays de Chagall.
Да.
Vous aviez des frères, une maman?
Да, конечно. Вот папы-то уже не было. Его потом все-таки отправили через линию на фронт.
Mon père, il a été renvoyé au front après.
А мы остались бабушка, мама и четверо детей.
И quatre enfants.
Да, вот брат и три сестры. Одна грудная, одна совсем грудного возраста на руках у мамы.
И l'une était un nourrisson dans les bras de maman. Elle était en âge de tété.
Vous avez donc été arrêté en 1943 à Vitebsk.
Oui. И через какое-то время рассортировали, кто имеет отношение к партизанским.
И après, au bout d'un certain temps, ils essayaient de comprendre qui avait des relations avec des familles de partisans.
И увезли в концлагерь.
Et ceux-là, ils les envoyaient en concentration en Pologne.
А мы как бы виноваты.
Et nous, on était comme coupables.
Да. Дело в том, что у бабушки в партизанских отрядах было много родственников.
Parce que ma grand-mère avait beaucoup de membres de sa famille dans les détachements partisans.
Да. Галина, c'était quoi les détachements partisans?
Партизаны, какое-то количество их оставляли специально для действий в лесах. Когда придут враги, то чтобы они наносили удары по ночам, например, чтобы они
в спину, ceux qu'on met dans les forêts, pour si jamais il y a une attaque, qu'ils puissent être là.
Оставляли оружие.
On leur donnait des armes.
Были вырыты землянки.
On creusait des abris sous la terre.
И потом очень трудно, и маленькие, но вот как уберечь, чтобы там, предположим, там не кричали, не шумели, чтобы не было слышно.
Et puis le problème, c'est que les petits, il fallait qu'ils se taisent, il fallait pas qu'ils crient, les enfants, c'est très difficile de les maintenir calmes.
Я помню, когда вот налетали самолеты.
Et je me souviens, quand les avions volaient.
Да, летом-то там же лес.
En été.
Но слышно было. Так нас уговаривали.
On entendait les avions.
Чтобы мы не шумели.
On nous disait de pas faire de bruit.
Чтобы не знали, что там есть небольшие.
Чтобы pas qu'ils sachent qu'il y avait des gens et pour qu'ils bombardent pas.
Ces partisans étaient des gens qui étaient au parti, qui étaient liés avec l'armée rouge.
Конечно,
bien
конечно.
Sûr, bien
Они
sûr.
Подрывали эшелоны с врагами, оружие
Ils essayaient de faire sauter des convois, ils détruisaient les armes des ennemis.
Фашистов убивали,
ils tuaient des fascistes, s'ils pouvaient le faire.
Ils n'étaient pas autonomes par rapport au parti.
Нет, конечно, нет, потому что вот оттуда им оружие
присылали. Bien sûr, puisque c'était bien que les armes arrivaient.
Задания всякие давали, они действовали по заданиям.
Parce qu'ils agissaient sur mission.
Они же на территории, занятые немцами.
Parce que le territoire était déjà occupé par les Allemands.
Кстати, что здесь плохо, что иногда, в общем, партизаны, предположим, там убили 10 человек.
Par exemple, les partisans ont tué 10 personnes.
Там, немцев. А они за это сожгли потом все село.
Et après, en représailles, ils brûlaient tout le village.
И уничтожили уже много-много людей.
Ils exterminaient énormément de gens.
C'est comme ça qu'il y a eu des quantités d'oradours sur Glane en Biélorussie. Un tiers de la population biélorusse a été détruite. Et donc ça, c'était des sortes de commandos, ces partisans de guérilla. Il faut comprendre qu'en juin 41, la rapidité, la brutalité de l'attaque allemande cloue sur place littéralement les forces soviétiques. Et il faut attendre l'hiver 42 pour que ces fameux partisans organisent leur première action d'envergure. Alors, on a beaucoup héroïsé, évidemment, ces partisans, mais il se pourrait bien qu'ils aient été moins soumis ou beaucoup moins soumis que Moscou ne l'a dit par la suite. En tout cas, ce qui est clair dans ce que dit Galina Alexandrovna, c'est qu'il y avait la répression a été d'une violence extraordinaire en Biélorussie, d'où elle est originaire. En 1943, on évalue le nombre de partisans à 360 000. À la fin de l'année 1943, mais les unités allemandes brûlent les villages. 2500 villages de Biélorussie sont brûlés à la façon Oradour sur Glane, c'est-à-dire, vous avez compris, avec des habitants dedans. Et il s'agissait bel et bien d'opérations d'extermination. Au procès de Nuremberg, des pièces ont été produites par l'Obergruppenführer von dem Bartzelewski, responsable des opérations SS anti-partisans en Union soviétique. Ces unités étaient composées de criminels endurcis chargés de mettre en application, je cite, les directives de Himmler selon lesquelles il fallait diminuer en quelques années la population slave de 30 millions. Et il s'agissait pas donc d'opérations militaires classiques, mais bien d'opérations d'extermination frappant d'abord une population civile non armée et Galina Alexandrovna représente bien cette volonté d'extermination des Slaves.
Ну, помню, понимаете, не так уж много фактов, сколько вот состояние
ужасного страха.
Sept ou huit ans quand vous avez été arrêté.
Да, если бы были среди взрослых, жили вот в семье, то в это время уже люди все понимают и помнят. А нас ведь держали там по возрасту. Мы были только вот одного возраста, поэтому мы многое не понимали.
Nous, on était entre nous, enfants, et si on avait été avec les adultes, on aurait su notre date de naissance, etc. Mais on savait rien, on savait juste qu'on avait tous le même âge.
Это в концлагере у нас такие были. Это сколько было людей?
Это c'est le nombre de gens qui avaient dans le camp de concentration. 60?
2084. У сестры 85.
Et ma sœur, elle avait 62 084, et ma sœur, elle était 62 085, et l'autre 62 086.
В таком количестве, какие же там фамилии, имена?
Avec un nombre pareil,
on peut pas savoir les prénoms. On a tatoué ce numéro sur votre bras, Galina, quand vous aviez 7 ans.
Да,
oui,
да.
Oui, oui.
А вот девочка, которая на руках была у мамы, et грудная.
La toute petite qui était un nourrisson dans les bras de maman.
У нее такая была ручка у маленьких, что elle avait, негде. Elle... Таким вот здесь вот на ножке делали.
Elle avait un petit bracelet, on lui avait aussi gravé sur la cuisse.
Грудной. И вот c'était когда мама, я помню, как она говорит, мне накалите, не трогайте ребенка.
Et je me souviens très bien, ma mère disait...
мать убежит и хохочет.
Qui disait ne touchez pas à mon bébé, ne touchez pas à mon bébé, et eux ils riaient, ils disaient c'est interdit les mères, partez.
Et le motif de votre arrestation, c'était partisan.
Да, что бабушка, oui. У бабушки, oui. Сыновья и внуки у партизана.
Les fils et les petits-fils de ma grand-mère étaient partisans.
Leur famille est Капустина. Ой, простите.
Et leur nom de famille c'est Капустин.
C'était très connu.
C'était de notoriété publique qu'il y avait beaucoup de Капустина dans les partisans.
Thank you.
Вы знаете, сначала, когда мы впервые встретились с немцами...
Вы знаете, la première fois qu'on a vu les Allemands...
Мы увидели, они на мотоциклах были, это же в лесу.
On était dans la forêt, et eux, ils étaient en moto, ils nous ont encerclés.
Всех собрали вместе, построили.
Et ils nous ont tous réunis comme ça.
И мы испугались, на самом деле так или нет, но казалось, что нас расстреливают.
Et on a eu peur, et on avait l'impression qu'ils allaient nous fusiller.
И нас построили, погнали строем.
Et on nous a poussés comme ça en colonne.
Да. И вот и так дошли до Витебска.
Et là on est arrivé jusqu'à Vitebsk.
Вот там оказался потом вот этот лагерь, вот такой, как загон, просто как для скота.
Il y avait un camp, c'était une espèce de hangar pour le bétail à Vitebsk, qui était à l'air libre, c'était, il n'y avait pas de toit.
И вот бабушку сразу ее в сторону увели, а это мамина мама.
Ma grand-mère, c'est ma grand-mère maternelle, elle a été tout de suite mise de côté, écartée.
Ну и сказали, что там партизаны.
Et ils ont dit, ça c'est les partisans.
Чтобы их убивать.
Et on pensait qu'ils voulaient les tuer.
И тогда мама стала плакать и просить, чтобы бабушку вместе соединили.
Et ma mère s'est mise à pleurer et a demandé à ce que notre grand-mère reste avec nous.
Так вместо того, чтобы бабушку одну старую, от которой никакого вреда уже никому не может быть, перевести к нам, нас, всю семью перевели к ней.
Et au lieu de prendre ma grand-mère qui pouvait absolument pas faire aucun mal à qui que ce soit, vu son âge, au lieu de la ramener à nous, ils nous ont tous amenés avec elle de l'autre côté.
И вот когда нас привезли в Варшаву, никто не объяснял ничего.
Когда нас заменили в Варшаве, personne ne nous expliquait rien.
В который скот возят, как у нас
были вагоны бестью.
Да. Вот. И а как мы ехали? Ведь ну даже человеку надо иногда ведь выходить. Вот я этого понятия не
Et je peux pas vous parler de la notion de faire ses besoins, puisqu'à aucun moment le train s'est arrêté pour nous laisser sortir faire nos besoins.
Знаю, что было страшно, что много больных, какие-то слезы, какие-то крики.
Il y avait beaucoup de malades, beaucoup de larmes, beaucoup de cris.
Все хотели есть.
Tout le monde voulait manger.
А когда нас высадили,
Et quand on nous a fait sortir
из поезда,
du train, des wagons,
мы увидели огромное количество голов людей.
On a vu...
То есть, насколько хватал взгляд, столько людей было.
On a vu énormément de têtes de gens.
Потом сказали, что это Варшава.
Et on nous a dit, c'est Varsovie.
Нас раздели.
Et après, on nous a déshabillés.
И вели, ну, правда, не здесь, сначала куда-то санпропускники, а потом вели голыми, буквально раздетыми по улице.
Et après, on nous faisait marcher, comme ça, dehors, tout nu.
И тоже вот люди смотрели, как на...
Dans la rue. Et les gens nous regardaient.
Dans la rue.
На улице, да, куда-то вот, видимо, с одного места в другое, куда-то.
Pour aller d'un lieu à un autre, dehors.
Вот потом куда-то вот нас гнали, вот потом стали вот эти номера накалывать.
Après, on nous a poussés comme ça, et puis on a commencé à nous piquer, à nous tatouer les numéros.
Да. Ну и вот сначала нас всех в лагерь отправили.
Au début, on nous a tous envoyés au camp.
А вот Аушвиц.
Аушвиц.
Это вот из Варшавы везли.
De Auschwitz,
это около Кракова где-то.
И Auschwitz, c'est près de Cracovie.
Вот это был самый большой концлагерь.
C'était le plus grand camp de concentration.
Трехэтажные нары.
Et on avait des espèces de lits à trois étages, des lits
На которых была солома, больше ничего, только солома.
Il y avait juste de la paille dessus.
И d'autre. Вот я помню, что мы на второй этаж вот, на нарах остались с бабушкой вдвоем.
Et je me souviens qu'avec ma grand-mère, on était sur la deuxième planche, au deuxième étage.
И не знали, где остальные.
Оказывается, Et on savait pas où étaient les autres.
Мамы и трое детей были в блоке, в так называемый ревир, это для больных.
Et il s'est avéré que ma mère et les trois autres étaient dans un bloc pour les malades.
Mais vous n'étiez pas dans la partie de Birkenau, vous n'étiez pas dans la partie avec les Juifs.
Non.
Parce qu'ils
les uniquement.
Non, parce qu'ils les mettaient à part et ils les exterminaient.
Увидели впереди идут женщины в полосатых одеждах.
On voyait devant nous des femmes avec des pyjamas rayés.
Деревянных таких вот такой обуви.
Avec des espèces de chaussures en bois et elles étaient rasées. Elles n'avaient pas de cheveux.
Совсем. И вот они плачут и кричат нам, женщины, берегите детей.
Et elles criaient, les femmes, protégez vos enfants.
Не отдавайте детей.
Ne donnez pas les enfants.
Потому что у них-то уже отняли детей.
Parce que elles, leurs enfants avaient été pris.
А мы еще не понимали, что нас ждет.
On comprenait pas ce qui nous attendait.
Вот среди малолетних, по нашим данным.
Chez les mineurs, les petits, d'après nos données.
Выжил каждый десятый.
Il y en a un sur dix qui a survécu.
И только недавно я узнала, что меня спасло.
J'ai appris seulement récemment que ce qui m'a sauvé.
Выбрали детей высоких.
c'est qu'ils choisissaient des enfants, les enfants de grande taille,
светлоглазых,
avec les yeux clairs,
светловолосых,
et les cheveux clairs,
которые по их мнению на арийцев похожи,
qui d'après eux ressemblaient à des Ariens.
И вот из нас сделали такой детский лагерь при госпитале.
Et nous,
и брали у нас кровь.
On s'est retrouvés dans un jardin d'enfants près de l'hôpital militaire et on se faisait prendre du sang. Et,
что и спасло меня.
Et c'est ça qui m'a sauvé ainsi que ma sœur.
А вот кто был низкорослый,
et ceux qui étaient de petite taille, qui avaient le teint plus mat et les cheveux plus mat.
Для проведения опытов.
Eux, ils les prenaient pour faire des expériences médicales sur eux.
Et они, конечно, погибали.
Et bien sûr, ils sont morts.
Dans quelles conditions vous viviez?
Также было, когда мы были в одном детском лагере в Патулице.
Quand on était à Патулице, dans le camp des enfants,
держали,
là où on nous gardait comme donneurs de sang.
Вот удивительно, что казалось бы, нас должны были бы держать каких-то таких, благоприятных довольно, потому что все-таки кровь же брали. Должны бы кормить хорошо, да? Mm. На самом деле этого, конечно, не было.
On pourrait imaginer que puisqu'on était donneur de sang, on aurait dû être bien nourri et vivre dans de bonnes conditions, mais c'était pas du tout le cas.
Если заболевал человек, его не лечили.
Si quelqu'un était malade, il était
pas soigné. Его только отделяли от других. Если он выживал,
on le mettait à part, et s'il survivait,
он был ценным, потому что он,
il avait une valeur.
Он вырабатывал в себе такие качества,
parce que ça voulait dire qu'il avait produit des anticorps,
которые можно передать потом по наследству,
et qu'il pouvait après transmettre.
Mais vous étiez uniquement entre enfants.
Не просто только дети, а дети одного возраста.
C'est pas seulement entre enfants, c'est entre enfants du même âge.
Вот что. Вот, например, сестра была у меня на 3 года моложе.
Qui avait 3 ans de moins que moi.
Она была где-то отдельно.
Elle était à part.
Только потом нас соединили, потому что у нас...
On nous a rassemblés quand on a été libérés, et on avait les numéros conjoints.
Они же нас идеологически обрабатывали. Вот нам, например, говорили, что коммунисты там рогатые, например. У них так рога, на лбу звезда горит, а что они детей уничтожают.
Et il y avait une propagande idéologique, ils essayaient de nous travailler idéologiquement en disant que les communistes avaient des cornes, qu'ils avaient une étoile sur le front qui brûlait et qui mangeait les enfants.
Нас обучали только песням немецким, молитвам.
On nous apprenait des chansons et des prières en allemand.
И мы пели, не понимая, что поем.
Et on chantait, mais on comprenait pas ce qu'on chantait.
On vous avait gardé parce que vous étiez des beaux enfants blonds avec des yeux clairs et qu'en prenant votre sang, dans les prises de sang, on espérait régénérer la race arienne.
Дело в том, что вот там есть такой, оказывается, был приказ Геринга, чтобы увеличить арийскую расу.
Il y avait un nombre de Göring pour augmenter le nombre d'Ariens.
За счет прибалтов.
Sur le compte des Baltes.
И славян.
Et des Slaves.
Вот так вот, таких похожих найти.
Voilà, parce qu'il fallait trouver des gens ressemblants.
Вот, потому что, говорит, среди немцев очень много, мы, как мы бы сейчас сказали, как Гитлер, какой он ариец.
Parce que, en fait, chez les Allemands, il y en avait beaucoup comme Hitler. Quel arien peut-il bien être, Hitler?
А надо, значит, вот, чтобы внешне это арийцы были.
Il fallait des ариens avec un physique d'арien.
Donc 7 ans, 8 ans, 9 ans, de 1943 à 1945. Mais vous étiez donc séparés de votre mère.
Конечно,
bien sûr.
Et её судьба неизвестна.
Et on ne connaît pas son destin.
Et vous étiez, et vos frères et sœurs?
Вот, значит, вот я, вот эта вот сестра,
moi, Вера, ma sœur Vera, plus jeune, et mon frère.
Мы были вместе.
On était
даже во втором лагере были, где вот кровь брали.
Dans le deuxième camp, là où on nous prenait le sang, on était ensemble.
А потом, поскольку он чуть постарше,
après, comme il était un peu plus âgé,
нас разлучили,
on nous a séparés.
Когда наша армия стала приближаться,
quand notre armée commençait à s'approcher,
тогда вот этих детей постарше стали брать.
On prenait les enfants plus âgés.
И их пускали, связывали, пускали впереди наступления нашего. Ну вот здесь они так делали с котом, вот скажем там коров вот так пускали, а там вот детей.
И en fait, ils les mettaient Comme quand on met par exemple des chats ou des vaches, ils les mettaient devant quand l'armée rouge arrivait pour pas que l'armée rouge tire.
Donc, ils ont utilisé ces garçons, ces enfants un peu plus grands, pour les mettre devant eux, comme boucliers humains, au moment où l'armée rouge arrivait. Votre frère a été utilisé comme ça.
Да, но но он случайно оказался живым.
Mais par miracle, il est resté en vie.
А брат нас нашел уже позднее, в 47-м году.
Et mon frère nous a retrouvés plus tard, en 47.
Но он сам был в детском доме.
Et lui-même était dans un orphelinat.
Поэтому не мог приехать, как и мы не могли.
Il pouvait pas venir, et nous non plus, on pouvait pas le rejoindre.
И вот так получилось, что мы жили в разных местах.
Et on a vécu dans des endroits différents.
И за всю жизнь пять раз только встречались.
Et on s'est vu que cinq fois dans toute notre vie.
Переписывались, конечно.
Привет, bien sûr.
Они все убегали куда-то, прятались, а мы оставались одни.
Я souviens très bien de la libération.
Не понимали, что
происходит. Il y avait de plus en plus d'attaques. Alors eux, ils partaient, on s'est retrouvés tout seuls.
И не знаю тоже, сколько мы лежали.
Et je sais pas combien de temps on est resté comme ça.
Только знаю, что утром.
Mais je sais que le matin.
Еще темно.
Il faisait encore sombre.
Вдруг открылась дверь.
Tout à coup, la porte s'est ouverte.
И мы страшно перепугались, думали, все, немцы нас нашли.
Et on a eu très très peur, on s'est dit, les Allemands nous ont trouvés, et maintenant ils vont nous exterminer.
Но вместо этого услышали.
Et au contraire de ça, on a entendu.
Ребята, здравствуйте.
Русские.
Русские.
On a entendu en russe.
Русские.
Ребята, здравствуйте. Bonjour, mes amis.
Да. Мы, конечно, мы все равно их боялись, потому что это взрослые.
Mais on avait peur d'eux parce que c'était des adultes.
Но так приятно было услышать
русский. Tellement agréable d'entendre notre langue natale, le russe.
Стали нам какие-то давать там, что у них там это было, у самих не знаю, что было.
Ils ont commencé à nous donner ce qu'ils avaient.
Сахара, чего-то.
Un morceau de sucre.
Но мы постойки смирно становились.
Et nous, on était comme ça, bien droit.
И очень боялись, когда к кому-то лично обращаются, потому что никто с нами так не разговаривал.
On avait très peur quand ils s'adressaient à nous personnellement, parce que jamais un adulte ne s'était adressé à un enfant de façon individuelle.
Только команды.
C'était toujours des ordres, des commandements collectifs.
Вот столько лет прошло,
tellement d'années ont passé.
А я помню эти команды.
Et je me souviens quand même de ces ordres.
Achtung, Augen rechts, Augen gerade aus, links um, on a dritter Marsch. Вот вы знаете, не зная немецкий язык, я вот 60 лет.
L'allemand. Donc 60 ans, je me suis souvenu de ça.
Achtung. 60 ans après, Galina Alexandrovna raconte cette histoire peu connue, au moins ici, dans cette partie du monde, la nôtre, avec son numéro tatoué sur son bras, 62 084. Merci à elle. Merci à Alexandra, reporter, traductrice, Aude Merlin, montage Guy Vanky, technique aujourd'hui Philippe Duclos et Sandrine Laurent, assistante Anne de Giaferi, Christophe Imbert s'occupe du répondeur, Corianne Guyenne de la musique. Le numéro du répondeur de la basse Ujispi, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Réclame.